Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André Dimbouzma, au Kassai oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'être de nôtre. Bon nombre d'observateurs se posent la question si le dialogue pour la cohésion nationale tient-elle encore la route après que l'option militaire a été votée par le Conseil de sécurité des Nations Unies relative au déploiement de la force d'intervention dans l'est de la République démocratique du Congo pour traquer et neutraliser les groupes armés actifs dans cette partie du pays. Si oui, que ces concertations nationales tiennent encore la route, quel doit en être le contenu? C'est la question au cœur de cet échange et partage. Composez les 081 890 6315 ou encore le 081 890 4339 pour intervenir en direct. Et vous pouvez aussi nous rejoindre à notre courriel pa@radiocapi.net. Merci à Titi Mpoutou, Diedone Nyangasa et Berry Franklin Luchaka qui réalisent cette émission coordonnée par J.R. Lungembo sous la supervision de Nicole Ngaka. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Dominique Verte, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci de nous rejoindre. Bonjour.
Bonjour, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation aussi.
Voilà,
c'est toujours un plaisir de pouvoir partager des sujets aussi importants avec vos auditeurs et avec votre rédaction.
Voilà, après le vote de la résolution 2098, d'aucuns se posent la question aujourd'hui si le dialogue pour la cohésion nationale tient-elle encore la route. Si oui, quel doit en être le contenu, Dominique?
Mais écoutez, oui, moi je pense que malgré le vote de cette résolution, malgré les événements qu'on a connus avec le transfert de M. Ntaganda sur la haie au niveau de la Cour pénale internationale, je pense que rien n'est pour autant réglé. Et donc on voit bien que la brigade d'intervention rapide qui sera sous le commandement de la MONUSCO va se mettre en place et va, on l'espère, avoir maintenant une action proactive dans la neutralisation des forces négatives qui sévissent en République démocratique du Congo et notamment à l'est du pays. Mais ce n'est pas parce qu'il va y avoir cette force rapide qui, on l'espère, mettra des résultats sur le terrain assez rapidement que tout est réglé pour autant. Et donc je pense en effet que l'appel que le président de la République avait lancé lors de son discours de Nouvel An en appelant à cette fameuse concertation nationale est toujours d'actualité. On voit bien que même si dans les mois qui viennent on pourrait voir une amélioration de la situation de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, il y a des enjeux et des chantiers importants au sein même de l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. On a vu encore, il y a quelques semaines, ce qui s'est passé à Lubumbashi le week-end passé. On voit bien que ce dialogue national, cette concertation nationale, à mon avis, est toujours toujours d'actualité. Alors maintenant, quels en seraient l'agenda, ou les points qu'on pourrait mettre à l'agenda? Moi, je pense qu'il y a évidemment une question quand même cruciale qui n'a toujours pas été réglée depuis novembre 2011. C'est évidemment la poursuite du processus électoral. Et on sait bien qu'aujourd'hui, le Sénat, les assemblées provinciales et les gouverneurs de province sont toujours issus des élections de 2006 et non pas du processus électoral de 2011. Or, il y a là un hiatus, il y a un décalage démocratique qu'il faut absolument régler. Or, on voit bien que, actuellement, sans du tout remettre en cause l'autorité du chef de l'État, mais on voit bien qu'il y a actuellement un blocage au Parlement, que ce soit au niveau de la réforme de la Commission électorale nationale indépendante, mais que ce soit aussi, bien entendu, au niveau d'un consensus politique pour mettre en place ce processus électoral au niveau des élections des provinces, au niveau des élections provinciales, mais aussi au niveau d'un niveau de pouvoir qui n'a toujours pas vu sa transformation démocratique, qui est évidemment le niveau local, où on sait bien que les maires, les bourgmestres, les chefferies, les villages ne sont toujours pas dotés d'institutions élues démocratiquement par la population congolaise.
Voilà, Dominique, si l'accord cadre d'Addis Abeba constitue aujourd'hui une victoire quant à la démarche diplomatique, et si le déploiement de la force d'intervention qui a comme mission de neutraliser les groupes armés actifs dans l'est du pays est à mettre à l'actif d'une victoire de la démarche militaire, donc il reste absolument la démarche politique. Donc c'est nécessaire qu'on organise ce dialogue.
Oui, tout à fait. Il y a vraiment cette démarche politique qu'il faut maintenant poursuivre, notamment au travers des élections, mais on sait bien qu'il y a de grands chantiers de réforme en République démocratique du Congo, au-delà du processus électoral qui doivent encore être mis en place. On sait qu'il y a évidemment les forces de sécurité qui doivent absolument être transformées en véritables forces qui sont là en appui de la population et pour défendre la population et surtout pour défendre les populations les plus faibles. Cette réforme des forces de sécurité, que ce soit au niveau des forces armées de la République démocratique du Congo, que ce soit au niveau de la police nationale, cette réforme-là doit encore être aussi engagée et elle ne peut l'être évidemment que s'il y a un consensus et comme le disait le chef de l'État, une concertation nationale qui permette de pouvoir véritablement avoir un consensus sur que fait-on au moment où cette brigade d'intervention aura réussi peut-être à neutraliser les forces négatives. Que fait-on de tous ces militants, de tous ces combattants? Les réintègre-t-on dans les forces armées de la République démocratique du Congo? Or, on sait bien que le brassage qui a été engagé depuis 2004-2005, où il y a eu les premiers groupes armés qui ont été neutralisés, on sait bien que ce brassage est arrivé à un résultat qui est vraiment peu positif et peu encourageant, puisque c'est ce brassage qui a permis de créer le CNDP et aujourd'hui le M23. Donc il faudra qu'on réfléchisse au niveau, enfin que les Congolais réfléchissent et que les autorités politiques congolaises réfléchissent sur que fait-on. Est-ce qu'on les réintègre dans l'armée? Est-ce qu'on les neutralise? Est-ce qu'on les fait poursuivre devant la justice congolaise? Est-ce que certains seront envoyés à la Cour pénale internationale? Il y a tout un débat sur ces forces de sécurité qui doit absolument, lui, être aussi au cœur de l'agenda de cette concertation nationale.
Alors, Franck nous a écrit, il a dit ceci, hein, pour ces fameuses concertations nationales, on attendrait de tous nos dirigeants de l'AMP, tout comme de l'opposition, premièrement, de se dépassionner en se dépouillant d'abord de cette logique « ôte-toi de là que je m'y mette ». Deuxièmement, de se débarrasser ensuite de toute forme d'égoïsme, individualisme qui ouvre des voies au clientélisme politique, au régionalisme, bref à la politique du ventre. Troisièmement, enfin de placer au centre de leurs préoccupations nationales et citoyennes la question de la bonne gouvernance dans son intégralité pour le bien de tous. Donc les trois points qui constituent au fait le contenu de ces dialogues comme nous le propose Franck. De Vienne. Comment réagissez-vous par rapport à ça?
Mais moi, je pense que Franck a tout à fait raison. J'allais aborder justement le troisième chantier de cette concertation nationale, c'est évidemment la bonne gouvernance. Alors, je pense qu'il y a des efforts qui ont été vraiment menés par les autorités congolaises actuellement pour cette grande lutte qui est vraiment un travail de longue haleine, hein. Il ne faut pas croire qu'on va régler ça en 6 mois, mais cette grande lutte contre la corruption, contre la politique du ventre, comme il dit très bien, c'est évidemment un enjeu aussi essentiel dans cette concertation nationale et dans cette volonté de repositionner la République démocratique du Congo vers l'avenir, vers le développement, vers un rayonnement national et international qui soit à la hauteur de la grandeur de ce pays et de l'importance de ce pays sur le continent africain. Et donc, oui, je pense qu'il a tout à fait raison. Alors maintenant, on sait très bien et ce n'est évidemment pas spécifique à la classe politique congolaise. Je pense qu'on a des exemples actuellement en Europe, notamment en France, qui le démontre très très bien depuis quelques jours. Je pense que, évidemment, au moment où on est dans une logique et une dynamique de concertation, de dialogue entre des responsables politiques, ben, il y a toujours, bien entendu, à un certain moment, la volonté de vouloir exister par soi-même plutôt que pour le bien commun. Mais je pense que ça fait partie, évidemment, des écueils, ou en tout cas des embûches qu'il faudra relever dans ces dynamiques de concertation nationale, mais ne croyons pas que tous les hommes politiques qu'on va retrouver autour de la table vont tous penser avant tout au bien-être du peuple congolais avant de penser à eux-mêmes. Je pense que c'est humain, et c'est un petit peu logique. Lorsque l'on est responsable politique, ben on pense d'abord à sa formation politique, on pense d'abord à son avenir, on pense d'abord à son rayonnement au sein de la classe politique, avant de penser au bien commun. Maintenant, il faut évidemment un équilibre, et je pense que le chef de l'État l'a bien exprimé en disant qu'il fallait qu'on surpasse, évidemment, ses intérêts personnels pour véritablement travailler au bien commun et au développement du peuple congolais et pas de la classe politique congolaise.
081-890-43-39 ou encore le 081-890-33-15 pour participer à ce débat.
Parole aux auditeurs.
Sylvain, vous êtes à Bounia, vous êtes le premier auditeur à pouvoir ouvrir les balles. Vous êtes avec nous, merci. Bonjour Sylvain.
Bonjour Pierre, bonjour à votre invité, bonjour à tous les parolés.
Voilà, tout à l'heure, quand vous prenez votre inscription dans cette émission, vous nous avez dit selon vous, hein, vous pensez que, au lieu de parler plutôt des concertations nationales, vous pensez à un dialogue plus grand que ces concertations telles que on l'entend.
Bien, Pierre, je voudrais d'abord vous féliciter pour m'avoir associé à ce débat. Vous savez, à l'heure actuelle, la RDC, dans sa configuration politique, regorge plus un problème d'ordre constitutionnel. Et donc, les débats à mon endroit risquent aussi de se focaliser sur des préoccupations d'ordre constitutionnel. Je voudrais d'abord rappeler une chose. Vous savez bien que lorsque nous sommes allés aux élections de 2006, après la période de la transition, ici je cite, les assises des Sanctuary avec l'accord global inclusif, nous nous sommes donné certains cadres de réflexion et certains cadres de gouvernance de ce pays. Et donc, puisqu'il y avait des questions de légitimité politique et il y avait des questions de revendication, les Congolais se sont donné la tâche d'harmoniser la gouvernance de l'État à faveur de tous les Congolais. Qu'est-ce qui se passe en 2006? Nous sommes allés aux élections. C'était tout. Et on a installé les institutions qu'on a appelées des institutions politiques démocratiques. Curieusement, c'est qu'après, vous avez vu la tentative qui a tourné mal contre les Congolais à renverser les peuples congolais dans la crise avec la modification sans raison valable de la Constitution. C'est là où parle le problème, M. Gérard. Aujourd'hui, avec les élections du 28 novembre 2011, votre invité l'a si bien dit. Je crois que nous avons encore installé le deuxième problème au Congo. Pourquoi nous ne voulons pas respecter la Constitution? Nous avons fait des élections à un seul tour, triquées de toutes les bonnes manières. Et aujourd'hui, moi je crois que ces élections du 28 novembre nous ont placés pratiquement dans un état de l'ingouvernabilité de l'État congolais. Est-ce que nous nous posons des questions sur le bien fondé de la gouvernance populaire? C'est une question. Moi, je crois, M. Gérard, au regard des articles 85 et 86, quand vous lisez la Constitution, nous sommes dans un état où, en réalité, si nous étions en face des gouvernements responsables, capables de pouvoir anticiper les faits de la bonne gouvernance, on devait déclarer l'état de guerre avec ce qui nous dérange. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas avec les faits?
Oui, Sylvain, oui, oui, Sylvain. Sylvain, je crois que l'option politique a été déjà levée. Après l'accord au cadre d'Addis Abeba, il y a aujourd'hui les résultats, nous les sentons. Il y a le vote de la résolution 2098 relative au déploiement de la force, n'est-ce pas? Ça, c'est l'aspect diplomatique et militaire. On semble déjà se mettre d'accord qu'il y a déjà des solutions. Mais maintenant qu'il reste la démarche politique, vous êtes d'avis que ce dialogue tient encore la route? Alors, quelle doit être la matière? Vous avez parlé de la bonne gouvernance, on note. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on retienne comme matière?
Bien, je voudrais d'abord arriver là-bas aussi, puisque vous parlez de cet accord cadre d'Addis Abeba. Vous parlez aussi de la question de la résolution 2098. Je ne résiste pas. Ce sont des questions de débat international. Et moi, je suis d'accord avec cette démarche qu'a menée la RDC. Sur le plan diplomatique, sur le plan de la politique étrangère, bien, disons que c'est une réussite. Mais est-ce que ça répond exactement au problème d'un pays? Moi, je crois que c'est une guerre. Après, ce dialogue national doit être d'abord inclusif.
Doit être d'abord? Doit d'abord être
inclusif.
Inclusif.
Ça veut dire quoi? Ça prendre les désirateurs. Est-ce que vous me suivez?
Tout à fait, allez-y. Prendre les
désirateurs. Prendre les désirs de tous les Congolais. La Constitution prévoit la décentralisation. C'est ça les grands débats, M. Gérard. Est-ce qu'on peut appeler les représentants de ces 26 provinces pour qu'on débatte de la question? Je vais terminer par dire ceci. Vous avez suivi la question du Katanga. C'est la décentralisation qui fait débat. Moi, je crois que, M. Gérard, si on peut intégrer les questions d'ordre constitutionnel qui sont parfois par les gouvernements actuels, on pourra résoudre les problèmes.
Voilà, donc je retiens, oui, Sylvain, je retiens que le grand problème, c'est d'ordre constitutionnel. Et Antoine Defont, donc s'il faut vraiment accentuer les débats, c'est autour de la question sur la décentralisation. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir appelé et surtout d'avoir apporté cette contribution par rapport au contenu de ces dialogues dialogue pour la cohésion nationale, si tient encore la route. Franklin, vous êtes à Bukavu. Bonjour.
Bonjour Monsieur Gir, et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi, bonjour à notre invité.
Alors Franklin, vous avez suivi Sylvain Debounia qui a proposé que ce dialogue soit vraiment un dialogue inclusif avec comme matière sur la décentralisation, donc c'est-à-dire le respect de l'ordre constitutionnel. Vous ajoutez quelle matière par rapport à ce dialogue?
Oui, je fais mienne toutes les propositions qui ont été faites par Franck Devienne et l'autre qui vient d'intervenir depuis Bounia. Et je pense que je peux ajouter qu'il faut une réforme complète des systèmes de sécurité. Il faut doter les pays d'un système de sécurité capable de défendre l'intégrité territoriale. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une armée fragmentée, une armée qui n'existe presque pas. Il faut donc réformer les systèmes de sécurité pour doter les pays d'une armée. Deuxièmement, il faut définir le cadre légal de lutte contre l'impunité. Parce que vous savez, M. J.R., l'impunité a atteint un niveau très déplorable au niveau de la RDC, à tel point que personne n'ose en parler. On prend tout comme normal, on prend tout comme si rien n'était. Je pense qu'il faut définir le cadre légal des luttes contre l'impunité. Troisièmement, il faut s'interroger sur le processus électoral. Les élections, on l'a dit, à deux tours, on les a ramenées à un seul tour. Il faut revenir sur le mode de deux tours, parce que nous risquons maintenant de connaître les élections à demi-tour, où certaines personnes ne seront pas oubliées, ne seront pas permis de participer. Moi, je pense qu'il faut définir le cadre légal. Il faut aussi déterminer quelles sont les causes qui ont fait que nos élections puissent essuyer beaucoup de critiques jusqu'à ce point-là. Il faut commencer par là. Et enfin, il faut aussi jeter un coup d'œil dans l'histoire. Qu'est-ce qui a été décidé dans la conférence nationale souveraine et qu'est-ce qui a fait que les résolutions de la conférence nationale souveraine ne soient pas appliquées? Moi, je pense que si on va avec ce point-là, je pense qu'on peut essayer un peu de reconstituer l'unité nationale. Voilà, M. Chier, ce que je voudrais un peu contribuer par rapport à l'émission.
Merci beaucoup, Franklin. C'est très riche hein, en disant qu'il faudrait une réforme complète du système de sécurité. Autre matière proposée par vous, c'est définir un cadre légal de lutte contre l'impunité. Et enfin, jeter un regard sur le processus électoral, parce que nous avons encore des arriérés, des litiges par rapport à ces processus, parce que les élections locales n'ont pas encore été organisées. Il faut qu'on revoie également. Et aussi, si au besoin, on peut se donner la peine de passer en revue hein, général, pourquoi il n'y a pas eu l'application des recommandations de la conférence souveraine, de la conférence nationale souveraine. Merci, Franklin, d'avoir appelé de Bukavu. Nous revenons à vous, Congo, vous êtes en Mbujimayi. Bonjour.
Merci, bonjour, c'est Congo depuis Mbujimayi.
Alors Congo, tout à l'heure, quand vous prenez votre inscription pour participer à cette émission, vous avez parlé d'une brèche qu'on doit ouvrir quand même au cours de ce dialogue. Hein, une brèche qui amènerait quand même l'opposition et la majorité de travailler ensemble dans un gouvernement national.
Oui, tout à fait. J'avais souhaité que, pendant ce dialogue, que si l'on ouvrait une brèche pour que l'opposition dans sa dimension plurielle, puisse participer à la gestion des affaires publiques, que l'opposition ne puisse pas refuser ou prôner la politique de la chaise vide parce que celle-là ne paye pas. Alors nous avons souhaité à notre humble avis que le débat est très important parce qu'il y a des problèmes qui se sont posés dans notre pays qui sont demeurés sans solution. Et le problème premier que j'ai retenu, c'est d'abord le mécontentement de ce qu'il y a eu comme problème électoraux. Il y a eu l'insécurité à l'Est, dit à la multiplicité des forces négatives et la prise de la ville de Goma par les 23. Il y a eu aussi le problème qui est posé par ce qui est dit comme crise de la bonne gouvernance. Alors ces trois problèmes constituent les piliers majeurs de ce qui sera aussi comme matière à traiter dans ce dialogue. Alors moi, je me pose encore une question, parce que nous savons que celui qui a convoqué ce dialogue, c'est le chef de l'État, Joseph Kabila. Mais qui en sera l'organisateur? C'est là où se pose encore des problèmes.
Donc vous
pourquoi
y
met... Oui, allez-y. Je rejoins la question de notre autre auditeur de Gênes, qui avait dit que les acteurs politiques doivent se dépasser pour trouver ne fût-ce que l'intérêt de la population. Qu'est-ce que ça veut dire? L'opposition et la majorité doivent se mettre ensemble, mettre en place un comité qui doit être l'organisateur de ce dialogue au lieu de recourir toujours à l'extérieur de notre pays. Merci.
Merci beaucoup, Congo, d'avoir appelé. Nous retenons que vous souhaitez qu'il y ait une brèche hein, pour aider aussi l'opposition à participer à la gestion de la chose publique. Et vous rappelez à l'opposition que la politique de la chaise vide ne paye pas. C'est le moment, parce qu'il va de l'intérêt national, penser aussi à quelqu'un qui pourrait organiser, c'est-à-dire à l'interne, au lieu chaque fois de recourir à des facilitateurs extérieurs. Merci beaucoup, Congo, d'avoir appelé. Nous traversons de l'autre côté à Brazzaville, parce que déjà, il y a une idée de politique qui souhaitait que les facilitateurs soient trouvés au niveau de Congo-Brazzaville. Gaston, vous êtes congolais, vous êtes en face, dans l'autre rive, vous intervenez. Gaston, bonjour.
Bonjour, Radio Capus.
Voilà, vous avez suivi les uns les autres, vous avez suivi Franklin, Sylvain et Congo qui vous ont précédé. Également, nous avons lu la lettre de Franck de Vienne qui a fait aussi des propositions. Alors, quelles sont, selon vous, les matières à pouvoir traiter dans ce dialogue? Est-ce que vous soutenez d'abord que ce dialogue ait encore lieu après qu'il y ait des événements qui ont précédé?
Voilà, merci pour la question. Je crois que vous étiez en train de vous écarter de plus en plus de la question que vous avez posée comme problématique au début. Vous avez dit après la résolution de l'ONU, les appels à la force d'intervention à l'Est, est-ce que ce dialogue est encore important? Si oui, c'est de là qu'on peut déjà parler du contenu de ce que vous allez appeler dialogue et concertation, peu importe. Mm-hmm. Moi, je vais d'abord commencer par cette résolution-là de l'Est. Je vous dis, je regrette et je dis que notre pays est plongé dans une guerre infinie, une guerre éternelle.
Oui, Gaston, parce que peut-être vous nous avez pris en cours. Hein, la résolution, nous avons longuement débattu sur la question le mercredi, il y a une semaine. C'est vrai, des gens ont eu à émettre quand même quelques commentaires sur ça. Aujourd'hui, nous évoluons, nous parlons de contenu du dialogue. Parce que après la résolution, après que Bosco Tangada ait été conduit à la CPI, après pas mal d'événements que nous avons vécu, est-ce que le dialogue tient encore la route? Si oui, quel doit être le contenu?
En tout cas, pour moi, le dialogue ne tient plus la route.
Ne tient plus la route.
Ah oui, les dialogues n'étaient plus la route, pas par rapport à cette résolution, mais je n'ai jamais vu l'importance de ces dialogues-là. Le chef de l'État a remporté les élections, il a été élu. Donc, il a un devoir de diriger le pays. Vous croyez que pour que Joseph Kabila ou Matata puisse se rendre compte de la publicité de la population, il faudrait qu'il soit en face.
Mais Gaston, est-ce que vous êtes d'accord d'abord? Donc, vous n'êtes pas d'accord pour les dialogues, donc ça ne sert à rien que de vous proposer aussi des matières, c'est ça?
Non, jamais.
Voilà, là on s'entend pas. 081-890-4339 pour participer à ce débat.
Au Capidance, du rythme et de la chaleur, des heures de musique, les tubes du moment et les meilleures nouveautés. R&B, hip-hop, rumba électrique, pop, rap, d'Afrique ou d'ailleurs. Tous les tempos mixés par DJ Daddy. Au Capidance, les mercredis jeudi de 21h à minuit, le samedi, Megamix de 19h à minuit.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous revenons à vous, Dominique Werth, analyste politique, et notre invité du jour, vous avez suivi Sylvain, Franklin, Congo, Gaton oui. Et tant d'autres auditeurs. C'est vrai, il y a plusieurs matières qui ont été proposées, qui doivent constituer donc le contenu de ce dialogue initié par le chef de l'État. Comment orientez-vous les préoccupations des uns et des autres?
Mais écoutez, moi je pense qu'il y a eu en effet des contributions vraiment intéressantes et il y a un point sur lequel je voudrais sans doute peut-être revenir, c'est le point de la décentralisation. Je pense qu'en effet, la manière dont la Constitution a redécoupé les provinces de la République démocratique du Congo, en les démultipliant avec des répartitions géographiques et des découpages géographiques qui ne sont peut-être pas les meilleurs. Je pense qu'en effet, cette concertation nationale, et donc moi je maintiens, malgré l'avis de votre auditeur de Brazzaville, moi je maintiens que celle-ci a encore vraiment une raison d'être, notamment pour tout ce qu'on a déjà dit, ce que vos auditeurs ont dit, mais aussi pour cette fameuse question de la décentralisation, parce que je pense que ce sera évidemment, au moment où elle sera effective et réellement opérationnelle, je pense que c'est aussi une piste très intéressante de sortie de crise que la RDC traverse actuellement, parce que à partir du moment où on aura décentralisation, c'est-à-dire un transfert de compétences et de responsabilités, hein, c'est un grand mot qu'on utilise souvent, il faut responsabiliser nos responsables politiques, mais je pense qu'une des meilleures manières de pouvoir les mettre en situation, de pouvoir prendre ses responsabilités, ben c'est évidemment de transférer un certain nombre de compétences, un certain nombre de responsabilités au plus près du terrain. Je pense que dans un pays aussi grand que la République démocratique du Congo, cette décentralisation peut vraiment être une piste de développement pour le pays et en même temps une garantie d'intégrité du territoire national, parce que qui dit décentralisation, évidemment, ne dit pas découpage du pays en plusieurs provinces indépendantes ou autonomes, mais bien le maintien d'une autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, mais avec un partage des compétences entre les différents niveaux de pouvoir, et donc au niveau des provinces, au niveau des villes, au niveau des districts. Et là, je pense qu'il y a vraiment un travail important à faire de dialogue et de concertation responsable politique, parce que cette dynamique de décentralisation concerne tout le monde, que ce soit la majorité qui est actuellement au pouvoir ou que ce soit l'opposition qui demain, peut-être, au travers des futurs scrutins électoraux, pourra prendre le pouvoir et avoir une majorité. Et donc, moi je pense que c'est vraiment un enjeu essentiel et que actuellement, au niveau de Kinshasa, pour avoir un petit peu travaillé dans ce domaine-là, on sent bien qu'il y a un peu de réticence à lâcher du pouvoir vers les provinces, vers un niveau intermédiaire de responsabilité de et d'autorité de l'État. Mmh. Et donc là, il y a, je pense, vraiment un travail à faire. Et aujourd'hui, c'est vrai que on ne peut pas dire que le bilan du gouvernement actuel soit tout à fait positif à ce niveau-là. Et donc, je pense que ça vaut la peine, eh bien, de mettre un peu le turbo, comme on dit, de mettre un peu la vitesse supérieure et de pouvoir engager avec l'ensemble des autorités et des forces vives de la nation, parce que je pense que on ne l'a peut-être pas encore assez dit, mais il faut bien voir qui on va mettre autour de la table dans cette concertation nationale. Je pense qu'il ne faut pas uniquement mettre évidemment les partis politiques, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, mais il faut aussi y mettre les forces vives de la nation,
oui.
C'est-à-dire la justice, c'est-à-dire les sociétés civiles qui sont actives et qui actuellement font un travail remarquable de soutien et de renforcement des capacités des populations sur l'ensemble du territoire, et donc faire en sorte que vraiment cette décentralisation puisse devenir une réalité en République démocratique du Congo au travers de cette concertation nationale.
Alors Congo a dit tout à l'heure que Congo de Mbujimaï, qui lui propose peut-être une brèche pour permettre à ce que l'opposition puisse participer aussi à la gestion de la chose publique. Comment voyez-vous cette proposition?
Écoutez, oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Maintenant, la brèche, je ne pense pas qu'il faille imaginer un remaniement ministériel où on intégrerait des forces de l'opposition et notamment on conditionnerait le fait que certains partis ou certains membres ou certaines composantes de l'opposition qui accepteraient de rejoindre la table de la concertation nationale pourrait être entre guillemets récompensé par l'ouverture du gouvernement à ces forces-là qui auraient accepté, étant dans l'opposition, de venir autour de la table. Moi, je pense que, en effet, votre auditeur, un de vos auditeurs le disait aussi très bien, et c'était celui de Brazzaville, même si je ne suis pas d'accord avec lui sur le fait que la concertation nationale n'a pas lieu d'être, mais il avait raison en disant, bon, il y a eu des élections, elles sont à moitié contestées, mais elles ont eu lieu, on sait bien dans quel contexte, il y a quand même aujourd'hui une majorité qui s'est dégagée, il y a le chef de l'État qui a été élu, il y a une majorité au Parlement, je ne pense pas qu'aujourd'hui il faille remettre tout en question un an et demi pratiquement après les élections, en disant, ah ben on va faire une grande concertation nationale et on va redéployer toutes les cartes au niveau des différentes forces politiques qui sont actives dans le pays. Moi je pense qu'il faut rester dans le résultat des élections de novembre 2011 et tout en intégrant bien entendu l'opposition. Et là, je pense qu'il y a une responsabilité nationale de la part d'un certain nombre de partis de l'opposition ou de composantes de l'opposition qui refuseraient, comme on l'a entendu avec l'UDPS, comme on l'a aussi un petit peu entendu avec le parti de M. Caméré, qui avait des réticences à venir autour de la table parce qu'on ne savait pas très bien quel était l'agenda, quelle était la composition des gens qui vont faire partie de cette concertation nationale. Et donc, tant qu'on ne connaît pas tout ça, nous, on n'est pas du tout intéressés par participer à cette dynamique proposée par le chef de l'État. Je pense qu'il faut que l'opposition, dans son ensemble, prennent aussi un peu ses responsabilités et fassent le pas, en effet, de pouvoir rejoindre la dynamique lancée par le chef de l'État. Alors maintenant, quelle compensation donner à ces partis ou à ces composants de l'opposition qui viendraient autour de la table de la concertation nationale? Moi, je pense que la seule contrepartie qu'on peut donner, c'est le fait que la République démocratique du Congo est aujourd'hui un pays démocratique. On est dans la Troisième République. Il y a une majorité, il y a une opposition. L'opposition doit être évidemment respectée et doit être reconnue. Mais voilà, pour le moment, elle n'a pas gagné, et donc elle doit y participer parce qu'elle est dans une dynamique et dans un processus démocratique et politique qui fait que la roue tourne et qu'à un moment, l'opposition peut devenir majorité, la majorité peut devenir l'opposition. Mais je pense que ça doit vraiment faire partie de la responsabilité politique et nationale de ses composantes de l'opposition à dire ok, on prend le risque de monter dans le bateau de la concertation nationale proposée par le chef de l'État, et puis en cours de route on peut voir, hein, y a toujours moyen de se retirer si on voit que ça ne tourne pas comme dans le sens où on le voudrait, mais au moins essayons de répondre à l'appel du chef de l'État, parce que toute la République démocratique du Congo, que ce soit les composants de la majorité, que ce soit les composants de l'opposition, sont aujourd'hui dans une situation qui demande qu'il y ait de nouveau un nouveau dialogue au sens large du terme, une concertation qui permette de pouvoir mettre à plat les différents problèmes que traverse la République démocratique du Congo et essayer de voir s'il y a moyen de trouver des solutions ensemble.
Voilà, alors Congo avait aussi proposé qu'il y ait le facilitateur ou peut-être le médiateur, je ne sais pas le terme qu'il a utilisé, mais l'organisateur ne puisse pas provenir de l'extérieur, qu'il soit choisi à l'interne.
Écoutez, oui, j'ai entendu à un moment que certains réfléchissaient à éventuellement faire appel à M. Abdou Diouf, qui est le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, qui a dû batailler fort dans son camp, le camp de la francophonie, pour que le sommet puisse quand même se tenir à Kinshasa, alors qu'on sait bien qu'à l'époque, il y a une petite année, lorsque le sommet a eu lieu à Kinshasa, ben, la République démocratique du Congo vivait des moments un peu difficiles avec ce qui se passait à l'Est. Moi, je ne pense pas, en tout cas, s'il fallait un médiateur extérieur, je ne pense pas qu'il faudrait retomber dans les travers de la conférence interrégionale internationale pour la région des Grands Lacs, à savoir que ce soit un médiateur qui vienne d'un des pays limitrophes de la République démocratique du Congo. Et donc l'idée d'avoir M. Sassou Nguesso ou d'avoir M. Museveni ou d'avoir, un médiateur qui soit issu d'un pays limitrophe voisin de la République démocratique du Congo, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Par contre, si on allait chercher un médiateur extérieur qui n'est pas partie prenante de la dynamique de la région des Grands Lacs, pourquoi pas maintenant? Moi, je pense qu'il y a assez de personnalités compétentes et légitime en République démocratique du Congo pour ne pas devoir aller chercher un médiateur extérieur.
081-890-4339.
Parole aux auditeurs.
Nous prenons cette deuxième série des auditeurs avec Omar qui est à Kinshasa et Maître Adrien Kananga à Kananga. Omar, bonjour.
Bonjour, J.R. Lungen.
Alors, nous parlons des concertations nationales après que le Conseil de sécurité des Nations Unies ait voté la résolution 2098 relative au déploiement de la force d'intervention dans l'est de la République démocratique du Congo pour traquer et neutraliser les groupes armés actifs dans cette partie du pays. Alors, si oui que ces concertations nationales, selon vous, Omar, tiennent encore la route, quel doit en être le contenu? Voilà, Omar, vous êtes avec nous?
Oui, je vous suis, oui. Jean Lungembo.
Oui, je disais, si oui, que ces concertations nationales, selon vous, tiennent encore la route, quel doit en être le contenu?
Oui, merci, J.R. Nous saluons à juste titre cette résolution 2098. Mais moi, je pense que ce dialogue est opportun dans la mesure où il sera question de réfléchir sur les stratégies à peaufiner après les départs de ces forces onusiennes. Nous l'avons vécu au Mali. Après les départs de militaires français, les rebelles Touareg sont revenus. Il est donc opportun d'en discuter parce que du chef l'idée du temps jaillit la lumière. À mon avis, nous estimons que ce débat ne puisse être axé sur le partage du pouvoir politique aujourd'hui. Il est temps que nous puissions nous dépassionner. Moi, je pense que ce débat doit être un cadre d'échange et de partage sur les valeurs prioritaires, notamment la sécurité interne. Il sera question de peaufiner des stratégies, des solutions pour asseoir notre force armée. L'article 187 alinéa 2 de la Constitution dit « Les forces armées ont pour mission de défendre l'intégrité du territoire et les frontières. Notre armée n'a pas encore cette capacité. On a besoin de tout le monde pour des stratégies en vue d'asseoir cette armée. » Deuxième matière, je pense qu'il sera important de se mettre d'accord sur la mise en œuvre de la décentralisation. Parce que ça fait très longtemps que les lois dues relatives existent, mais jusqu'à aujourd'hui, la décision n'est pas encore effective. C'est parmi les moteurs clés du développement. Troisième matière, Je pense qu'il sera question de se mettre autour d'une table pour décider des idées fortes du développement. Et enfin, aujourd'hui, je pense qu'il serait aussi important de réunir tout le monde pour peaufiner des stratégies en vue d'assurer la réelle indépendance du pouvoir judiciaire, car dans un état de droit, la justice...
Omar, là vous rejoignez une de personnalités russes qui disait que c'est vrai, il y a déploiement de la force d'intervention pour traquer et neutraliser les forces, les groupes actifs dans l'est de la République démocratique du Congo, mais qu'il faille actuellement pour le gouvernement congolais de travailler sérieusement sur la réforme de l'armée congolaise. Donc il faut vraiment activer, il faut mettre des bouchées doubles et aussi passer à la vitesse supérieure pour arriver à organiser vraiment la réforme de l'armée pour préparer le départ de cette force après que sa mission ait été finie.
Oui, il a totalement raison, J.R., parce qu'on ne peut pas toujours avoir l'aide des étrangers. C'est comme une personne qui se marie, on peut bien vous aider à vous marier, mais quelle est votre vie après le mariage? C'est aussi cela. Nous avons vu des conséquences fâcheuses au Mali et nous ne voudrions pas que ces conséquences puissent revenir. Moi, je pense que la réforme de l'armée est urgente. Et pour finir, J.R., je propose que cet échange ne puisse pas se limiter au seul politique, car le changement d'un État n'est pas l'apanage exclusif de tels experts. On a confié ces peu d'experts, nous avons vu le résultat. Moi, je pense qu'il faudrait mieux étendre les débats même à toutes les couches de la population, les délégués de jeunes, les délégués de la société civile, les délégués des commerçants, parce que la difficulté, c'est plus le bas peuple qui les sent. Et pour finir, Jolie, je voudrais faire mienne cette pensée riche qui dit du choc dit déjà et la lumière. Il est temps que nous puissions nous défaire de nos sentiments politiques. Car Watt Dubois disait que l'émotion est nègre, la raison est hélène. Il est temps que nous puissions nous défaire de nos émotions, se mettre autour d'une table pour peaufiner des stratégies. Pas pour partager les pouvoirs, mais pour se dépasser des émotions, pour décider, pour mettre ensemble des idées, afin que notre pays puisse redorer les blasons longtemps ternis de son image.
Merci.
Voilà ma préoccupation. Et je voudrais aussi, les inviter à la culture politique. Lorsque le président vous invite, c'est qu'il a une culture politique élevée. Et la courtoisie la plus légendaire voudrait que lorsqu'on vous invite, que vous veniez. Et s'il y a des contre-écarts, s'il y a des contre-performances à soulever, mieux vaut le faire autour d'une table, car la politique des chaises vides n'a jamais payé.
Merci
Julien Gimboué. Voilà ma contribution.
Merci beaucoup, Omar. Maître Adrien, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Oui, bonjour, J.R. Lungembo.
Voilà, Maître Adrien, vous avez suivi Omar tout à l'heure, qui est favorable à l'organisation de ces dialogues, malgré qu'il y a déjà des avancées sur le plan diplomatique. Je crois que ça vaut la peine, comme démarche, disons, politique. Il faut peaufiner des stratégies. C'est une occasion pour qu'on puisse recueillir le point de vue des uns et des autres, notamment de toutes les couches sociales. Est-ce que vous partagez cet avis ou vous avez un appui contraire?
Je partage totalement cet avis-là. J.R., je pense que si nous aimons notre pays, nous devons avoir cette habitude-là de nous regarder en face, de nous dire des problèmes en face et qu'on cherche vraiment ce qui ne va pas dans notre pays, parce que nous avons vu de petits pays développés, mais nous, depuis l'indépendance, nous sommes toujours nous tournons à rond. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a une belle initiative, il y a les uns qui bloquent et les autres qui ont vraiment cette volonté-là, mais ils n'ont pas vraiment le pouvoir. J'ai suivi monsieur l'invité. Apparemment, il fait semblant comme si tout va bien dans ce pays. Moi, je pense que cette concertation-là, elle est vraiment nécessaire et importante. Pourquoi? Vraiment, n'en déplaise à tout celui qui ne veut pas écouter ce que je vous dis ici. Il est de principe, et nous connaissons tous, nous sommes tous des Congolais, qu'il y a vraiment une crise.
Maître Adrien.
Cette crise-là causée par des différents événements. Mais moi, je me reste d'appeler par rapport à la récente organisation des élections, donc
oui, Maître Adrien, je peux vous aider.
Pourquoi ne pas s'asseoir autour d'une table?
Oui, Maître Adrien, est-ce que vous permettez que nous évoluions ensemble avec vous? Oui, on laisse Maître Adrien évoluer. Donc, Maître Adrien, oui, on vous écoute.
Commission nationale indépendante, là c'est de un. De deux, autour d'une table, pourquoi pas ne pas discuter par rapport à cette injustice sociale dont certains coins sont victimes. Dans ce pays, nous voyons qu'il y a vraiment deux catégories de gens. Et pourtant, nous sommes tous Congolais. Il y a les uns qui s'enrichissent d'une manière vertigineuse, et aux vies et aussi de tout le monde. Et il y a aussi les autres qui s'appauvrissent aussi aux vies et aussi de tout le monde. Et c'est pour cela aujourd'hui. Vous avez l'impression que tout le monde se bat pour intégrer la politique parce qu'ils savent que c'est dedans que ça paye. Voilà un peu autour de ces matières-là qu'on pourrait vraiment se mettre autour d'une table parce qu'aujourd'hui, laissez-moi vous dire une vérité, peut-être on ne peut pas l'accepter par votre invité, bon, c'est son droit. Aujourd'hui, tout partisan de l'opposition est considéré comme un ennemi de la majorité.
Oui, ben voilà. Alors, Maître Adrien, c'est vrai que vous êtes favorable pour l'organisation de ce dialogue. C'est une occasion par rapport à ce que vous venez de dire pour les opposants et aussi ceux de la majorité de se mettre ensemble et de revoir un peu tout ce qui constitue une crise actuellement. Voilà, Aris Ilunga a dit, il nous a écrit en disant: à mon avis, la tenue du dialogue n'a aucun sens parce que c'est vrai, nous avons organisé des élections. Aujourd'hui, il reste 3 ans qu'on laisse ceux qui sont au pouvoir terminer leur mandat et nous pouvons penser à un dialogue peut-être plus tard. Voilà, ça c'est Ilunga Aris. Jean, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Jean.
Oui, bonjour Gilles, bonjour paroles auditeurs.
Voilà, merci de nous rejoindre Jean. Vous avez suivi les uns et les autres. Est-ce que vous êtes favorable à l'organisation de ces dialogues après qu'il y ait déjà eu beaucoup d'événements en faveur de la recherche toujours de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, entre autres la voie diplomatique qui nous a amené aux accords de d'Addis Abeba et aussi qui a amené le Conseil de sécurité à décider le déploiement d'ailleurs de la force d'intervention pour traquer et neutraliser les groupes armés dans la partie est de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, après tous ces événements, les concertations nationales tiennent encore la route? Si oui, selon vous, quel doit en être le contenu?
Ok, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Je trouve que cette concertation est nécessaire et très indispensable. Et moi, je me pose même la question, pourquoi ça traîne depuis qu'on avait annoncé ça il y a plus de 4 mois? Pourquoi ça traîne? Parce qu'on ne peut pas penser que, bon, comme on est passé des accords en accord sur la situation de l'Est, que c'est fini. Non, on n'a pas seulement le problème de l'Est. Il y a tant de problèmes qui gangrènent notre société et que l'issue, la sortie de ces situations ne passera que par ce dialogue-là. C'est-à-dire, moi, je veux demander, c'est pas l'invité, s'il peut nous répondre, à quand réellement va se tenir ce dialogue, parce que, ou cette concertation, parce que ça traîne. On risque d'aller encore jusqu'à décembre, et on ne fera rien. Alors, je voulais attirer l'attention un peu de l'opposition de notre pays, qui, chaque fois, il s'oppose, mais il s'oppose toujours et déjà en tout. Alors qu'avant, c'est l'opposition même qui sollicitait, qui souhaitait à ce qu'il puisse y avoir un dialogue, mais à les attendre et parler, ils s'en opposent encore. Je ne sais pas, je ne comprends plus finalement qu'est-ce qu'ils veulent, ou qu'est-ce qu'ils veulent plutôt, ces différentes oppositions qui en réalité ne sont pas des vrais opposants, mais ils cherchent à avoir une parcelle de pouvoir. Pourquoi? Parce que ce dialogue ici ou cette concertation, nous ne voulons pas qu'il y ait le partage des pouvoirs. Nous devons parler des problèmes des pays, notamment la sécurité, qui n'est pas seulement le problème, l'apanage de l'Est de notre pays, bien sûr, là c'est le point d'ancrage, mais aussi la sécurité partout, dans toutes les provinces. À Kinshasa, avec l'éternel problème de Kuluna, dont l'État est incapable de trouver solution. Ça pose problème. Et dans toutes les autres provinces, la réforme de l'armée, c'est très capital. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est n'importe qui cherche à nous taper sur la tête. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une armée fiable. Les problèmes sociaux, la vie sociale de la population, c'est un problème qu'on doit traiter dans ce dialogue. Alors, c'est pourquoi moi je voulais, pour conclure, dire que ce dialogue, ça concerne les Congolais. Moi, je m'oppose contre toute idée qui
d'une médiation extérieure.
Inviter les, une médiation donc, extérieure. Avoir les intermédiaires qui viendront de l'extérieur de notre pays. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours, nous resterons toujours des enfants. Chaque problème, même de notre, le problème interne, on doit toujours faire appel à l'extérieur.
Oui, Jean, s'il vous plaît, il y a votre prédécesseur, Franklin, qui nous a rappelé des Bukavu, qui a proposé, en tout cas pour aller vite, hein, dit, il y a quand même eu des recommandations, qui ont été formulées après l'organisation de la conférence nationale souveraine. Pourquoi ne pas prendre ça et mettre à jour? Ça pourrait peut-être activer les choses et amener à ce que le dialogue aille vite.
Oui, oui, exactement. Moi, j'admire son idée, mais il faut savoir que dans notre pays, nous avons le problème de l'application des textes. C'est pourquoi vous avez remarqué que même les accords qu'on a signés ici et là, à Addis Abeba, ainsi de suite, à San City, ainsi de suite, ça ne porte pas du fruit parce qu'on n'a pas la culture de respect des textes. Si on prenait ces idées-là, on les mettait à l'application. Le dialogue, on peut l'organiser dans 2 mois, au lieu même de chercher d'aller ailleurs, on le fait ici à Kinshasa ou à l'une des provinces, au lieu de chercher à aller dans un autre pays qui va encore nous coûter l'argent que nous cherchons avec beaucoup de terres. Alors, c'est pourquoi moi je voulais insister sur le problème des intermédiaires, que ces dialogues se tiennent, cette conférence se tienne entre Congolais, que nous puissions traiter nos problèmes, nous, cette fois-ci, sans faire appel à l'extérieur.
Merci beaucoup, Jean. Nous rendons au Bas-Congo, à Matadi précisément. Michel, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur les journalistes.
Voilà, Michel, vous avez la parole.
Oui, moi, je vais tout simplement commenter que la concertation, nous la voulons bien. Parce que l'Africain a toujours utilisé la concertation ou le dialogue comme un moyen pour se parler, se pardonner et aussi décoller. Vous savez, nous avons vraiment des problèmes. Parce que faire la politique, que ce soit que vous êtes dans la majorité ou dans l'opposition, cela ne veut pas dire que nous sommes des ennemis. Non, il y a seulement un écart d'idées, mais ces idées-là, c'est pour que nous puissions construire les pays. Mais pour nous, malheureusement, que ces deux camps sont devenus des ennemis. Je me rappelle, pendant tous les 2 mandats du chef de l'État, je crois que c'est une seule fois officiellement qu'il a reçu les opposants. Et ça, ce n'est pas bien. Ce qui démontre qu'il y a un problème. Les dialogues, nous les voulons. Mais les problèmes, je voulais encore dire que ces dialogues ne doivent pas être un moyen. Parce que nous appelons notre pays la République démocratique du Congo. Et je ne sais pas si nous soulignons chaque fois que nous parlons de cela, si nous soulignons bien ces mots, démocratique. Les dialogues ne peuvent plus être un moyen pour que ceux qui sont au pouvoir puissent toujours réviser la Constitution. La Constitution, c'est une loi sacrée. Et si nous voulons que le Congo puisse évoluer, il faut que nous puissions chaque fois tenir compte de la Constitution. Donc après les mandats, vous pouvez chercher un autre mandat. Après l'autre mandat, si vous terminez les 2 mandats, vous n'avez plus le droit à diriger. Vous devez laisser la place aux autres. Parce que nous disons bien, si vous avez réussi dans les infrastructures, il y a d'autres peut-être qui viendront dans les sociales. Un autre, c'est comme ça que les pays décollent. C'est pourquoi nous voulons que ces dialogues-là ne puissent plus être un moyen pour donner à ceux qui sont au pouvoir de revenir encore. Non. Alors, troisièmement, nous ne pouvons pas exclure. Vous savez, j'étais décidé de suivre dans votre chaîne que malgré tout ce qu'on dit, il y a un opposant encore qui est arrêté. Non. Pendant que nous cherchons les dialogues, moi je crois que ce n'était pas le moment. Mais ce que je voulais dire, on ne doit pas exclure. Prenez par exemple de Tshisekedi. Mais c'est le journaliste. Tshisekedi a une popularité incontestable. C'est quelqu'un que nous devons approcher, inviter, parler de lui. Parce que c'est un Congolais. Il a droit. On ne peut pas toujours exclure. Parce que lorsque nous avons l'idée d'exclure, déjà que nous exclurons, devient des problèmes. Donc, comme il a une popularité, et je dis bien, une popularité incontestable, personne n'a la popularité comme Tshisekedi. Il n'y en a pas. Donc, et nous ne pouvons pas l'exclure chaque fois. Nous devons l'approcher, on se parle, on se pardonne, on se serre les mains.
Oui, Michel, mais je crois que ce niveau, oui, le dialogue, c'est pour tous les Congolais.
Oui.
Pour tous les,
oui,
Congolais, je crois, on exclut les personnes.
Il y a même ceux qui sont à l'extérieur. Il y a des problèmes sérieux avec ces pays.
Oui, il y a Sylvain qui a parlé tout même de... le dialogue inclusif.
Moi, c'est pas invité. Mm-hmm. Pour moi, c'est parler. On se lave, nous voulons voir un jour si c'est gagné. Camilla Cessère, mais...
Voilà. Alors, le problème, je crois qu'une fois, nous l'avons dit dans cette émission, je crois que notre invité pourrait nous éclairer là-dessus. C'est vrai, il s'agit d'un dialogue inclusif. Ben, il ne faudrait pas que ce dialogue, hein, que le Congolais ait à l'esprit qu'il s'agit là d'un combat où c'est pas moi, une bataille entre qui ne concerne que deux personnes. En fait, tout Congolais est concerné dans cette démarche de pouvoir chercher la paix durable de notre pays. Merci beaucoup, Michel, d'avoir appelé de Matadi et nous terminons cette deuxième série d'auditeurs avec Jean-Paul qui est en Boujimaï. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour JR.
Voilà Jean-Paul, vous avez la parole.
Oui merci beaucoup, je salue tous les auditeurs de la radio Campi. C'est un privilège aussi pour moi de participer pour la toute première fois. J'ai trouvé que le sujet est très important. Le dialogue est salutaire. En fait, moi je trouve que le premier point qu'on doit parler dans ce dialogue, c'est la conscientisation de tous les politiciens congolais à aimer leur patrie. Parce que nous trouvons qu'il y a un problème de manque de volonté de faire avancer les choses. Aujourd'hui, on est en train de discuter pour dire qu'on ne va pas toucher à tel point, on ne va pas toucher à tel point. Mais en réalité, nous sommes à quel niveau? Nous sommes à quel niveau? Qu'est-ce qui avance pour nous dire qu'on ne doit pas toucher tel point ou on doit toucher tel point? Si aujourd'hui on peut remettre toutes choses en cause pour la bonne marche du pays, on va perdre quoi? On est pressé pour aller où parce que rien ne marche. Rien ne marche. Même la Bible dit un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Nous sommes déchirés à l'intérieur, nous sommes divisés. Les points de vue sont tellement partagés et qu'on s'est dit aujourd'hui qu'on a fait des avancées. Moi, depuis San City, je ne vois pas des avancées. Comme à San City, on a exclu d'autres personnes. On a organisé des élections 2006 sans tenir compte des points de vue d'autres personnes. Aujourd'hui, nous sommes en 2013 et les élections de l'année passée ont créé encore des problèmes. Moi, je pense qu'on doit se mettre autour d'une table, voir les problèmes qui nous déchirent depuis 1960 jusqu'à ce jour. Et on peut repartir sur des bases nouvelles, même s'il faut tout recommencer. On peut faire de la transition, on peut recommencer les élections, parce qu'on fait semblant pour dire que ça marche. Mais ça ne marche pas. On doit être honnête et sincère avec nous-mêmes. Nous devons nous regarder dans les yeux et nous poser des questions. Nous avons le pouvoir, c'est bien. Mais qu'est-ce qui marche?
Voilà.
Quel est le compte de la population? Dans tout cela.
Voilà,
il faut une véritable conscientisation des politiciens congolais. Merci.
Voilà, merci beaucoup Jean-Paul. Là, vous donnez comme élément de matière le contenu pour ce dialogue. Il faudrait qu'on mette un accent sur le patriotisme, que c'est, en fait, travailler sur le patriotisme dans les fiefs dans les chefs de tous les politiques. Et aussi, vous avez eu l'occasion de poser la question. Nous sommes à quel niveau? Pourquoi les gens se battent déjà pour définir telle matière? Pourtant, on n'est même pas encore allé. Donc, je crois que là, c'est notre invité pourrait nous aider. Et vous avez eu à placer quelques inquiétudes hein, par rapport à ce qui s'est passé dans notre pays. Donc depuis 2002, vous ne voyez pas d'avancée. Ben, c'est vrai que bon, il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées. Nous verrons ça avec notre invité. Merci beaucoup Jean-Paul d'avoir appelé de Mbujimaï et surtout d'avoir apporté cette contribution si riche dans cette émission. Nous vous invitons, chers auditeurs, on va poursuivre cette émission juste après le flash d'information, 081-890-43-39.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous poursuivons avec vous, Dominique Vert. Vous êtes analyste politique. Vous avez suivi la deuxième série des auditeurs, hein, qui, au fait, ont fait les auditeurs qui ont fait également leurs propositions par rapport à la tenue de ces dialogues pour la cohésion nationale. Les uns ont parlé de revenir un peu sur les recommandations qui ont été formulées lors de la conférence nationale souveraine. Et d'autres encore s'empressent en disant. Mais voilà, il faudrait qu'on y aille vite. Et maintenant, il ne faudrait plus que ça traîne. Pourquoi ça traîne? Alors, autant d'inquiétudes.
Oui, écoutez, moi je suis tout à fait d'accord, en tout cas sur la deuxième intervention. Et il est évident qu'un des critères de réussite un des paramètres de réussite de cette concertation nationale, c'est bien entendu le calendrier. Et il est évident que si aujourd'hui je maintiens toujours l'idée que cette concertation nationale, malgré le vote de la résolution, malgré les derniers événements avec le transfert de M. Bosco Ntaganda à la CPI à la Haye, en Hollande, aux Pays-Bas, je pense quand même que, évidemment, cette nécessité d'avoir cette concertation nationale, elle est bien entendu liée aussi au calendrier. Et si les autorités congolaises, évidemment, traînent des pieds et remettent de semaine en semaine ou de mois en mois la tenue de cette concertation nationale, alors elle n'aura pas lieu d'être. Je pense qu'il faut en effet qu'elle ait lieu avant l'été. Et donc ici, il reste deux mois et demi pour véritablement engager cette concertation nationale. Si c'était pour la remettre à l'automne ou en décembre de cette année, je pense que là, évidemment, il n'y aurait plus vraiment de raison et il n'y aurait plus de légitimité de tenir une telle concertation nationale. Donc je pense qu'en effet, au-delà de l'agenda, au-delà de la composition des personnes qui vont devoir être autour de la table de cette concertation nationale, il y a bien entendu le calendrier qui doit évidemment se réaliser dans les semaines qui viennent pour que cette concertation ait encore une raison d'être. Maintenant, sur
les recommandations
les recommandations de la conférence nationale souveraine. Oui, je suis bien d'accord. Je pense quand même que, bon, ce n'est pas inintéressant de pouvoir relire ces recommandations, de faire un peu le bilan pour voir, en fonction de ce qu'elles demandaient, qu'est-ce qui a été réalisé depuis 92. Maintenant, je pense qu'on est quand même en 2013. Cela fait 20 ans qu'elle a eu lieu. Je pense que il y a certaines des recommandations qui sont un petit peu obsolètes. Et donc, moi, je serais plutôt d'avis de me conforter sur la situation actuelle dans laquelle la République démocratique du Congo évolue. Et d'actualiser en tout cas les recommandations qui avaient été émises lors de la conférence nationale souveraine. Je pense qu'on est quand même et dans un contexte international et dans un contexte national terriblement différent de celui de 92 et que donc il faut en tout cas actualiser ces recommandations. Je pense qu'on a quand même bien balisé dans l'émission d'aujourd'hui les différents enjeux et les points de discussion qui devraient être mis à l'agenda de cette concertation nationale. Si on fait un tout petit peu le résumé, mais il y a évidemment la question des élections provinciales et des élections locales.
Dominique,
ne fassions pas l'erreur de 2006 où nous avons dit on va d'abord faire les trois grands scrutins, présidentielle, assemblée nationale, assemblée provinciale, et puis les locales on verra un petit peu après, on va les faire, mais on les fera deux ans plus tard, et on sait bien que en 2008 elles n'ont jamais eu lieu, en 2009 non plus, nous sommes en 2013, elles n'ont toujours pas eu lieu, alors qu'on a eu un deuxième scrutin présidentiel et national. Et donc moi je pense que dans un, les élections provinciales et locales, je pense qu'il faut vraiment, et j'entendais encore récemment les nouvelles composantes de la société civile qui s'inquiètent du fait que la fameuse loi sur la réforme de la Commission électorale nationale indépendante n'a toujours pas été promulguée ni ratifiée. On ne sait plus très bien où elle est sortie du Parlement, elle est allée au Sénat, elle est revenue au Parlement. Le chef de l'État n'a pas voulu la promulguer parce qu'il fallait encore un débat. Il faut vraiment qu'on clarifie, et cette concertation nationale va pouvoir, je pense, clarifier clairement les choses par rapport à cette nouvelle commission électorale nationale indépendante. Je pense qu'on est plus ou moins d'accord, je pense qu'il y a un consensus, y compris dans la majorité présidentielle, si j'ai bien compris, pour dire qu'il faut qu'elle soit réformée et que la manière dont elle a fonctionné en 2011 ne lui permet pas d'avoir une légitimité pour organiser les élections provinciales et locales qui doivent avoir lieu. Donc, un, les élections, réforme de la CENI et calendrier électoral maintenant solide et surtout crédible. Deux, bien entendu, la décentralisation. Et je pense que sur la décentralisation, il faut qu'il y ait cette concertation nationale et qu'on revoie, peut-être même, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire d'office, mais peut-être même qu'on va devoir réviser le découpage des provinces. Et évidemment, si on révise le découpage des provinces, cela veut dire qu'on doit passer par une révision de la Constitution. Et donc c'est tout un cheminement qui est évidemment assez long et assez lourd, mais je pense qu'il faudra au moins se poser la question. Est-ce que les provinces telles qu'elles sont aujourd'hui découpées dans la Constitution sont tout à fait réalistes et surtout conformes à ce que les populations attendent et surtout ce qu'elles représentent au sein de ces...
Dominique...
Je pense qu'il y a évidemment la réforme des forces de sécurité.
Oui.
On l'a dit, on l'a redit, il y a la grande question de savoir que va-t-on faire de ces groupes armés informels qui risquent d'être neutralisés par la force d'intervention rapide en appui avec les forces de la MONUSCO et en appui avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Ben, il faudra voir comment est-ce qu'on réforme les services de sécurité de l'État congolais. C'est un troisième point qui me semble vraiment important. Le quatrième point étant évidemment toute la question liée à la bonne gouvernance. Moi, je maintiens qu'il y a des dynamiques qui ont été engagées, qui sont plutôt positives à ce niveau-là, mais le mal étant tellement profond au Congo, que même s'il y a des dynamiques positives qui ont été engagées, je pense qu'elles sont insuffisantes et qu'il faut évidemment aller plus loin et, comme je le disais, mettre un peu la vitesse supérieure par rapport à cette question de la bonne gouvernance et de la corruption et du fait que ce sont toujours les mêmes qui bénéficient des richesses du pays et que la grande majorité de la population, on vient encore de l'entendre dans votre bulletin d'information à midi, honore-t-il-vous, la majorité de la population est toujours aussi démunie et son pouvoir d'achat n'a pas réellement augmenté depuis quelques années.
Voilà, Dominique, si vous
voilà
permettez...
Voilà un peu que je voulais dire.
Oui, si vous permettez, on prend deux...
En résumé.
On va prendre deux auditeurs avant de conclure avec vous. Maurice est à Kinshasa. Bonjour Maurice.
Oui, bonjour Monsieur Gir.
Oui, rapidement, vous avez une minute Maurice.
Bon, parce qu'on je pense que je venais à peine de vous prendre en cours.
Oui.
C'est juste quand un auditeur de ma part intervenait, je voudrais même le soutenir par rapport aussi à son point de vue. Donc le problème chez nous, parce que nous ne voulons pas aller direct au but, direct à la cause. Les gens, parfois, quand il y a des conséquences, les gens recourent parfois à des procédures ou des procédés qui ne sont même pas conformes normalement à la cause, hein, ou qui ne extirpent pas vraiment le malheur ou bien la cause. Le problème ici que relève des élections chaotiques que le pays a organisées par la volonté du régime au pouvoir.
Oui, Maurice, vos prédécesseurs ont évoqué cela, mais alors, vous ajoutez quelle matière
ceci. Oui. Donc les problèmes, il faut résoudre un seul problème dans ce pays. Le problème, c'est lequel? La majorité des Congolais qui ont voté massivement pour le président élu.
Voilà, Maurice, on ne peut pas revenir sur les élections parce que là, on l'a dit. C'est vrai, il y a des choses à redire au cours des dialogues, mais on ne sait pas. Alors, on va prendre Martin qui est à Boutembo. Martin, bonjour.
Bonjour, JR.
Voilà, Martin, en 30 secondes, on va terminer avec vous.
Ok, moi, ce que j'aimerais, c'est que la population soit aussi impliquée dans le changement de la Constitution. Nous avons que on est arrivé à un seul tour. Que tout changement, et que tout changement plutôt, et que toute modification passe par la voie référendaire. Ça va en fait nous permettre à ce que nous puissions avoir la légitimité dans les dirigeants que nous allons élire, c'est ce qu'ils avaient à dire.
Voilà, merci beaucoup. Nous revenons à vous, Dominique Werth. On va terminer cette émission. En conclusion, donc, on retient que le dialogue, donc nous sommes la majorité des gens, la majeure partie de la population est pratiquement favorable à la tenue de ces dialogues, mais il y a des matières qui sont prioritaires.
Je pense qu'il y a évidemment, on ne peut pas parler de tout dans ce dialogue parce que l'autre question aussi évidemment, si cette concertation a lieu, c'est qu'elle ne doit pas non plus, d'abord elle doit se faire, je l'ai dit tout à l'heure, assez rapidement, et je pense avant l'été, sinon ben, il n'y aura plus vraiment de légitimité pour une telle dynamique. Deux, il ne faut pas non plus que ça dure pendant 6 mois. Parce que évidemment, si on veut mettre tous les points à l'ordre du jour de la réforme ou des réformes profondes dont la République démocratique du Congo a besoin, on est parti pour un an, 6 mois, un an de discussion. Je ne pense pas que ce soit tout à fait adéquat. Je pense qu'il faut qu'on aille assez vite sur les questions urgentes et prioritaires. Je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les élections, c'est la décentralisation, la réforme des forces de sécurité, la bonne gouvernance. Et alors, je pense qu'un des points évidemment essentiels au niveau de la composition, et je pense que pas mal de vos auditeurs l'ont souligné, il ne faut pas que ça se fasse en vase clos entre les responsables politiques uniquement, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition d'ailleurs, mais il faut que ce soit une véritable concertation nationale qui soit ouverte aux autres forces vives de la nation, à savoir les forces de sécurité elles-mêmes, parce que je pense que si on va commencer à discuter sur une réforme du système de sécurité de la République démocratique du Congo, ben, il faut quand même que les premiers concernés soient autour de la table et puissent
se
défendre, soient amenés par eux-mêmes aussi certaines pistes de solutions. Je pense.
Voilà Dominique Werth, merci d'avoir accepté notre invitation et merci à vous tous d'avoir eu à participer à ce débat. Merci également à Dieudonné Nyangasa et Berry Franklin Tiaka et Titi Poutou qui ont réalisé cette émission coordonnée par J.R. Lungembo sous la supervision de Nicole Ngaka. Réécoutez cette émission sur www.radiocapi.net. Plainte des artistes musiciens congolais contre les entreprises de téléphonie cellulaire pour l'utilisation de leurs œuvres sans payer les droits d'auteur. C'est le sujet que nous allons aborder demain à 11h. Quel regard portez-vous sur cette position des artistes? Donc, prenez rendez-vous avec nous. À très bientôt.